Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Marie-Laure Pichard, qui est avocate au barreau de Poitiers. Et elle a rejoint le barreau de Poitiers après avoir exercé au barreau de Paris. Barreau qu'elle a rejoint après avoir passé la passerelle, après 8 ans comme juriste, dans le cabinet d'avocat dans lequel elle a toujours exercé finalement quand elle était à Paris. Donc je suis très contente de pouvoir partager avec vous cet échange parce que c'est la première fois que j'ai une avocate ou un avocat qui soit devenu avocat après avoir passé la procédure de passerelle pour devenir, après avoir été juriste. Donc comme je sais que certains d'entre vous sont dans cette situation, sont juristes et envisage de devenir avocat peut-être, même si peut-être que les histoires de grève leur font se poser deux fois cette question à nouveau. Mais bon, en tout cas, je sais que certains d'entre vous, chers auditeurs, vous y pensez. Donc je suis contente de partager cet échange avec vous. Et je suis aussi contente parce que Marie-Laure, elle a une quarantaine d'années, elle a 40 ans. Et elle est collaboratrice dans un cabinet à Poitiers, elle fait du droit des affaires, chez Acti Avocat en particulier. Et je trouve ça intéressant de présenter un parcours. Alors je ne sélectionne pas les parcours pour des histoires de succès ou autres, mais le fait est que finalement des collaborateurs qui ont 40 ans, je me creuse un peu la tête, mais là je n'en ai pas. Et je trouve ça chouette de montrer qu'une carrière n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il peut y avoir des aléas, des mouvements qui font que il n'y a pas cette histoire de je suis collaborateur de tel âge à tel âge et puis ensuite je suis senior et puis ensuite je m'associe et comme quoi ce serait la seule manière d'exercer ou la seule façon d'être reconnu comme avocat et comme un avocat talentueux ou qui fait bien son travail, qui est un bon avocat. Donc je suis ravie, je pense que ça s'insère aussi, et Marie-Laure en parle, dans une vie de famille, avec du coup des rythmes qui sont sûrement différents pour les femmes et pour les hommes dans l'évolution des carrières. Et donc je pense que c'est important de le rappeler et de présenter aussi des histoires comme celle de Marie-Laure qui, je suis sûre, résonnera dans le cœur et dans les têtes et à commencer par les oreilles de beaucoup d'entre vous. Donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir déjà échangé avec Marie-Laure et ensuite de partager cet échange avec vous. Et c'est maître Jean-Charles Menguer, monsieur le bâtonnier Jean-Charles Menguer, qui m'a recommandé de l'interviewer. Je remercie aussi Malia Kerry, Julie Katz Coaching, Pablito 54, Gomba, Fabien Coquille et Baptiste Bépé pour leurs avis sur le podcast. Vous êtes les derniers à avoir laissé un avis et vraiment, je vous en remercie. Je ne vous retiens pas plus et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Marie-Laure Pichard.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Merci à vous.
Alors Marie-Laure, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
Alors, comment alors, pourquoi déjà?
Pourquoi
j'ai toujours voulu, depuis petite, exercer ce métier. Enfin, en tout cas, faire du droit. Alors, à l'origine, pas du tout pour ce que je fais aujourd'hui, puisque mon souhait était de devenir commissaire de police.
Ah.
Voilà,
pourquoi commissaire de police?
Sans doute un rêve de gamine, d'attraper les méchants. Voilà. Ensuite, j'ai commencé mes études de droit, j'ai fait du droit pénal. J'ai pris conscience des enjeux que ça pouvait représenter, voilà, des difficultés aussi de l'approche morale, pas forcément évidente à gérer. Donc je me suis dit que finalement c'était pas pour moi, même si le droit continuait à me plaire. Je me suis dit, tiens, je serais peut-être juge pour enfants. Et puis là aussi, assez vite, j'ai pris conscience de tout l'aspect moral, souvent difficile en fait à gérer, en me disant que je serais peut-être pas assez forte pour supporter tout ça. Et puis naturellement, par le biais d'un stage de découverte, je me suis dit, bah, le droit des affaires, c'est très bien. Voilà, ça me plaît parce que c'est varié. Même si la profession se féminise, c'était pas forcément ce qui était le plus courant, mais ça, voilà, ça me dérangeait pas. Et en tout cas, on va dire que les enjeux psychologiques sont quand même moindres, même si voilà, quelqu'un qui, enfin, chef d'entreprise qui a créé son bébé et qui est sur le point de le vendre, évidemment, il y a tout un aspect psychologique à gérer, mais avec des enjeux quand même très différents de ce que ça peut être, surtout ce qui est droit des personnes, on va dire.
Vous l'avez dit, même si la profession se féminise, c'était pas forcément évident, dans le stage de découverte que vous avez fait, vous étiez entouré d'hommes ?
Uniquement.
Uniquement. Et ça vous a, voilà, ça vous a pas fait peur ou...
Non, c'est pas forcément quelque chose qui m'a dérangée, même si c'est quelque chose qui m'a marquée. Parce que c'est vrai que sur les bancs de la faculté, il y avait déjà beaucoup plus de femmes que d'hommes. J'imaginais pas à ce point que le monde des affaires restait encore un monde essentiellement masculin. Donc ça m'a marqué sans me déstabiliser plus que ça et sans me dire c'est pas fait pour moi. Mmh. Voilà.
Donc après ça, vous avez poursuivi vos études de droit plutôt en orientant dans les matières,
Alors, je suis allée, en fait, j'ai commencé alors mes études à Lyon. J'ai fait jusqu'à ma licence de droit à Lyon. Et puis ensuite, je cherchais ce fameux stage pour voir un peu quelle orientation je pouvais prendre. Je n'ai pas trouvé de stage à Lyon, même non rémunéré. Et j'ai pris contact avec un cabinet parisien. Qui m'a dit bah oui pourquoi pas un petit stage voilà pourquoi pas mais nous on cherche surtout des gens qu'on pourrait prendre en contrat un peu le soir pour à la fois répondre aux standards puisque cabinet parisien donc standard jusqu'à 20h donc on cherche plutôt quelqu'un entre 17h et 20h aussi en plus de ce stage si ça vous intéresse pour le standard mais aussi pour vous tester voilà donc c'était un cabinet d'affaires, spécialisé plutôt sur des opérations dites de LBO, donc avec des investisseurs financiers comme clientèle principale. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvée à finir mes études à Paris, du coup.
Donc vous venez pour un été à Paris ?
Je viens pour un été.
Faire le standard slash stage.
Voilà, et finalement, en septembre, je m'inscris à la fac de droit de Nanterre. Voilà, je dis à mes parents, je quitte Lyon, j'arrive à Paris, je m'inscris à la fac, je me cherche un petit appartement et puis je fais comme ça ces horaires du soir après mon stage, donc en plus de la fac, les horaires du soir au cabinet. Je fais derrière mon DESS et donc mon stage obligatoire de DESS au sein de ce cabinet. Et puis s'enchaîne un CDD.
Vous allez trop vite. Paris, ça a été un coup de cœur ou ça a été
Non, ça n'a pas été un coup de cœur. Ça a été vraiment de me dire parce que
les opportunités
c'était un gap.
Sont ici.
Ouais, les opportunités sont ici parce que mine de rien, même si c'est de moins en moins vrai, le droit est encore un peu quelque chose qui se transmet. Et voilà, moi j'ai rien trouvé à Lyon parce que j'avais entre guillemets pas de piston, hein, faut quand même être un peu réaliste, donc puisque l'opportunité est là, allons-y, voilà, et je suis restée comme ça.
Ça s'est bien passé l'arrivée à Paris?
Oui.
Je pose cette question parce que mine de rien, c'est pas si évident.
Non, c'est pas évident. Je venais quand même d'une grande ville entre guillemets, puisque, enfin oui, pas entre guillemets. D'ailleurs, Lyon est une grande ville, mais je dis toujours, je compare Lyon-Paris en disant que Lyon est à dimension humaine, ce qui n'est pas forcément le cas de Paris. Donc, il y a eu un petit temps d'adaptation en fait, nécessairement. Mais je me suis mise assez vite en mode parisienne pour éviter d'être embêtée dans les transports en commun, on va dire. Voilà, donc à courir dans les couloirs sans savoir pourquoi, dans les couloirs du métro, mettre des écouteurs sur les oreilles pour pas qu'on m'adresse trop la parole dans le métro. Voilà, mais finalement, Bah oui, on s'y fait.
Et
on
à
s'y
la
fait.
fac?
Et à la fac,
Changement d'ambiance.
À la fac, ouais, plus compliqué là pour le coup, parce que je suis arrivée, quand on arrive en maîtrise, les gens se connaissent déjà depuis un certain temps. Donc pas forcément évident de nouer des liens à la fac. Je n'en ai d'ailleurs pas gardé. donc voilà, mais j'allais. Voilà, j'allais à la fac vraiment pour assister aux cours et en fait j'apprenais beaucoup plus de mon expérience en cabinet qu'à la faculté.
Et donc ce cabinet où vous mettez un pied et puis vous ne
Et je le
vous
quitte plus pendant 12
oui,
ans.
Oui, voilà, pendant 12 ans.
Oui.
Donc un stage de découverte qui se transforme en collaboration.
Pendant 12 ans où en fait j'ai après mon DESS donc enchaîné sur un CDD puis un CDI comme juriste. J'ai tenté de faire une prépa pour l'ECOA, donc ça c'est mon côté profil totalement atypique. Et au cours de cette prépa d'été, je me suis vite rendu compte que j'étais plus du tout dans l'universitaire, mais déjà bien ancrée dans la pratique, et que ce serait donc compliqué pour moi de faire l'école, qui par ailleurs prépare quand même essentiellement au contentieux, ce qui n'était pas du tout mon choix. Je voulais vraiment axer sur le conseil exclusivement et le droit des affaires. Donc j'ai fait cette prépa, j'ai pas passé le concours en me disant voilà, est-ce que véritablement j'ai envie de tout mettre de côté pendant 2 ans pour faire cette école qui va me préparer à un métier que je souhaite pas forcément faire. Il y a des aspects conseil hein, au sein de l'école, mais ça prépare quand même principalement au contentieux. Et donc je n'ai pas fait le concours. J'ai continué à travailler au sein du cabinet. Et puis, au bout des 8 ans, j'ai fait la passerelle.
Ah, je crois que vous êtes mon premier cas de...
Eh ben voilà.
Mon premier cas de passerelle, juriste jusqu'à avocat. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je suis ravie. Et donc, enfin, j'ai plein de questions, mais... coup de cœur pour la matière, le droit des sociétés. Dans cette équipe, ça se passe bien, manifestement?
Ça se passe très bien parce que j'ai un patron, alors direct, hein, globalement, les associés de ce cabinet. Alors, je l'ai quasiment vu naître en plus, ce cabinet, puisque moi, je suis arrivée en 2002 et le cabinet était tout juste créé depuis un an. Donc voilà, il y avait tout à faire, il y avait tout à développer et j'ai fait partie en fait du processus de départ, du développement et j'ai été formée par quelqu'un d'exceptionnel. Alors ça me fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais lui-même me parlait régulièrement de sa formation avec un avocat qui lui a appris tout le métier, etc. Et je ne me pensais pas dire ça un jour, mais c'est vrai que voilà, c'est la personne qui m'a formée m'a très bien formée. Souvent en mettant un peu les mains dans le cambouis, hein, en me disant voilà, je te donne le dossier, tu te débrouilles, tu me sors les actes, voilà. Donc avec du stress, mais du bon stress, parce que je savais quand même que derrière, il validerait, il prendrait le temps avec moi de m'expliquer les choses, de m'expliquer pourquoi. Donc quelque chose de très très formateur et la chance d'avoir intégré à l'époque un petit cabinet où ben on apprend très très vite parce qu'on touche à tout très vite en fait.
Donc jeter dans le bain.
Exactement.
Est-ce qu'il y a eu plus de référentes féminines au fur et à mesure de cette aventure?
Non.
Non, ça a vraiment été une aventure plongée dans le monde masculin.
Ouais, plongée dans le monde masculin, d'autant plus que vraiment on était essentiellement conseil de fonds d'investissement. Donc là aussi, il y a quelques femmes, mais c'est pas la règle. donc voilà, non. Et puis, alors nous on était positionnés plutôt sur ce qu'on appelle le small cap, donc essentiellement des PME. Et là aussi, dans la clientèle cible des fonds d'investissement pour lesquels on travaillait, essentiellement des hommes qui avaient créé leur entreprise et qui étaient à un stade de développement où ils avaient besoin de s'adosser à des fonds d'investissement. Donc vraiment un milieu plutôt masculin.
Et ça va?
Oui, ça va très bien.
Ouais.
Oui, non, moi ça ne m'a jamais posé de difficultés. Parfois, j'étais confrontée à des situations un peu cocasses, mais je m'en suis jamais... formaliser plus que ça et j'ai toujours tourné ça plutôt à l'humour ou à la dérision, donc en fait ça m'évite un terme à des choses parfois un peu cocasses. Voilà.
Ouais.
Oui. Il y a bien eu quelques maîtresses qui ont traîné, par exemple, dans les termes employés, des choses comme ça. Mais voilà, en rigolant et en laissant un peu couler les choses, finalement, les gens se rendent compte que il n'y a pas grand-chose à en tirer, que le sexe ne fait pas le cerveau. Voilà. Oui, c'est compliqué. C'est parfois compliqué. Mais voilà. Sinon, je m'amuse de la situation aussi. Je peux très bien commencer un rendez-vous en commençant par faire le café. Voilà. Et puis ensuite, on attaque les négociations. Voilà. Mmh. Il faut savoir se mettre parfois dans la situation attendue pour mieux ensuite dérouter l'interlocuteur. Ça fait partie des choses qui m'amusent aussi un peu.
Et cette transition entre on attend de vous que vous fassiez le café et rentrer dans le dur des négociations, vous avez un truc qui vous permet de montrer à l'autre que là, par contre, vous n'êtes plus celle qui fait le café, vous êtes la négociatrice?
Oui, le truc, je sais pas si j'ai un truc en particulier. Déjà, enfin moi, pour en revenir à ma formation, j'ai été formée par quelqu'un qui m'a toujours expliqué que pour que une négociation aboutisse, de toute façon, à un moment donné, on arrivera au milieu. Donc, déjà, quand on rédige, on prend la plume et qu'on rédige un acte, et ça, c'est quelque chose que j'applique toujours. J'essaye au maximum d'être au milieu. C'est-à-dire de me dire toujours qu'est-ce qui est acceptable pour l'autre, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour arriver à un document le plus équilibré possible, puisque c'est là qu'on arrivera à la fin. Si on n'y arrive pas, c'est parce que voilà, on n'est pas sur une position d'équilibre. Après, au cours de la négociation, est-ce que j'ai un truc? Non, je suis pas. Je ne sais pas si j'ai un truc. L'argumentation.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être tellement déstabilisées par j'ai encore été celle qui a fait le café. Qu'en fait, après, elle reste dans ce.
Ah oui, fermée avec un. Oui,
vous voyez ce que je veux dire?
Oui, non, moi pas forcément parce que, enfin pas forcément, non pas forcément, je fais pas partie, alors je fais pas partie des gens qui ont des positions totalement fermées non plus, puisque ça fait pas, en général ça fait pas avancer le schmilblick, mais j'argumente, et puis j'entends aussi, j'essaye d'entendre et de comprendre les arguments de l'autre en fait, donc voilà, enfin je pense que c'est, là, c'est même pas une question d'homme ou de femme, hein. D'ailleurs. Je pense que ça fait partie du métier de la négo en elle-même, pour essayer de comprendre quelles sont les positions, pourquoi, pour essayer de trouver ensuite des solutions satisfaisantes pour tout le monde.
Donc, en fait, revenir à l'objectif, quoi. On s'assied, on a fait les cafés, maintenant l'objectif c'est qu'on se mette d'accord. Et,
exactement.
Donc, on se concentre là-dessus. Et vous avez donc fait la fameuse passerelle.
Oui.
Est-ce que ça vous a causé un sentiment d'imposture?
Oui, mais je le dis.
Je suis ravie de poser cette question.
Je le dis assez souvent. Alors, je ne parle pas d'imposture, je parle d'usurpatrice.
Usurpation, d'accord.
Voilà, je dis souvent, mais moi, je ne suis qu'une usurpatrice. Voilà, alors c'est parfois, là aussi, c'est un petit côté provocateur de ma part, puisque ça, c'est parfois pour faire... plaisir à mon interlocuteur, mais c'est pas forcément ce que je pense, puisque en fait aujourd'hui, ma position aujourd'hui me fait penser à ce qu'on appelait les anciens conseils en fait, et j'ai été formée justement par un ancien conseil, donc voilà, qui m'a sans doute transmis un certain nombre de choses en la matière et par rapport à l'acceptation de ce statut un peu hybride. Et en même temps, voilà, je parle d'usurpation parfois pour choquer, provoquer, voilà, mais
je ne pense pas au
fond de moi, même si
mais on
au
vous
sein
le
des instances professionnelles. Alors, on me le renvoie...
Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est votre sentiment. Est-ce que vous avez eu un sentiment d'usurpation? Si vous me dites oui, mais je ne le pense pas,
non,
ça veut dire
en fait,
que non.
En fait, je ne l'ai pas dans mon métier au quotidien. Je l'ai parfois au sein des instances professionnelles. Voilà, où j'ai pas toujours pris le temps de m'investir, de m'intéresser aux ordres auxquels j'ai pu appartenir, voilà, en me disant, bon, même si alors à Paris le sujet se posait un peu moins, puisque on est un peu noyé dans la masse, donc nécessairement je suis pas la seule. C'est vrai qu'en arrivant à Poitiers, c'est quelque chose. Oui, qui m'a effleuré l'esprit plusieurs fois en me disant,
Mais
bah, tiens,
pourtant,
si je m'intéressais à, et tout en me disant, bah oui, mais il n'y a pas tant de passerelles que ça. Si je regarde le tableau, je pense qu'il n'y en a pas, il y en a pas énormément.
Alors que la passerelle était déjà loin derrière.
Oui.
Donc en fait, j'allais dire, le sentiment d'usurpation, il est presque plus lié au fait de ne pas vraiment s'intéresser à la vie de barreau.
Oui, c'est
plus qu'au fait de ne pas avoir passé l'examen,
ah oui, non,
fait
non,
l'école.
L'école et l'examen en soi, je reste, enfin voilà, je reste convaincue. Mais c'est peut-être en ça que, alors s'il y a des choses qui me traversent l'esprit aujourd'hui sur le fait de m'investir un peu plus dans la profession et dans ce qui peut l'entourer, c'est peut-être d'axer beaucoup sur le fait que définitivement il faudrait que cette école prépare aussi au conseil, vraiment, mais quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, enfin, parce que le droit des affaires ça recouvre plein de choses, donc moi c'est plutôt tout ce qui est droit des sociétés, mais c'est le cas aussi en droit social, c'est le cas en droit fiscal, voilà, il y a plein de matières qui sont touchées par ça. Et moi, je reçois, puisque là, j'ai pas mal de candidatures en ce moment pour des stages ECOA ou DJCE. Il y a
donc
de plus en
ECOA,
plus de jeunes.
DJCE, ECOA, c'est l'école des avocats locales.
L'école des avocats de Poitiers.
De Poitiers.
Et
le DJCE,
c'est le diplôme de juriste conseil d'entreprise.
Ouais.
Où là, bah, typiquement, ce sont des gens qui passent par le cursus école classique, tout en n'ayant pas pour volonté de faire du contentieux. Donc, donc voilà.
Donc à Paris, quand vous exercez ce métier comme juriste d'abord et qu'ensuite vous faites la passerelle, voilà, vous êtes confortable avec ça, quoi.
Oui.
Ça. Ok. Et ensuite, quand vous obtenez le titre, confortable avec ça aussi. Est-ce que,
oui.
On vous a pas renvoyé vos
Non, mais en fait,
ou autre...
dans l'esprit des clients et de mes interlocuteurs à Paris, en fait. Dans leur esprit, j'avais déjà le titre. C'est pour ça que je ne l'ai pas...
Et justement, vis-à-vis de vos clients ?
Ben, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'effectivement, il arrivait avant que j'aie le titre que les gens considèrent que j'étais avocat et ils s'adressaient à moi comme si je l'étais.
Bonjour, bon, maître. Oui,
voilà.
Alors, en fait,
donc,
je...
bon, j'ai essayé de pas... Je ne le précisais pas forcément, j'avoue, parce que je craignais aussi que le rapport de travail soit un peu différent si l'information avait été connue et qu'on se dise bon, je ne peux pas m'adresser à elle et donc je vais m'adresser au-dessus, ce qui là pour le coup m'aurait été désagréable, donc
bah oui.
Bon, mais en accord avec les gens pour lesquels je travaillais à l'époque, ma signature d'email était suffisamment imprécise.
Non, voilà. Mais en fait, c'est amusant parce que moi je ne suis plus avocate, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis encore avocate et que je fais ça en side project ou. Et donc, on m'appelle souvent consoeur ou confrère. Et à chaque fois, je rectifie parce que je veux pas... Enfin, j'ai cette trouille qu'on me reproche d'usurper le titre d'avocat de manière illégale.
C'est sûr que c'est compliqué, oui.
Et donc, alors, il y a des avocats qui ont la gentillesse, l'amabilité, enfin, qui disent « Non, mais vous avez été avocate, vous le serez toute votre vie, donc vous restez une consoeur. » Je suis là « Oui, bon... » Mais
ça.
C'est cette espèce de ligne. Alors, moi, j'exerce plus en droit, donc voilà, mais... C'est vrai qu'il y a cette espèce de ligne où il faut rester pragmatique parce qu'on ne va pas passer un quart d'heure à parler de... Et d'un autre côté, il y a cette chape de la profession réglementée qui fait qu'on ne veut pas non plus Mais bon, bref.
Non, non, mais c'est sûr que c'est moi, c'est des choses qui m'ont, voilà, qui m'ont à plusieurs fois un peu perturbée. Et quand j'en discutais avec les gens du cabinet pour lequel je travaillais, ils me disaient, bah oui, mais enfin oui, on comprend, mais en même temps, enfin à leur sens, il n'y avait pas de problème si le client me pensait avocat, c'est son, enfin leur réponse était, s'il te pense avocat, c'est parce qu'ils estiment que tu en as les compétences, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et il n'y a pas d'usurpation puisque il n'est pas écrit sur tes cartes de visite que tu es avocat, il n'est pas écrit sur notre site que tu es avocat, il n'est pas écrit dans tes mails que tu es avocat, donc tout va bien. Et bon, on le vivait comme ça en sachant que voilà, que le dossier allait être présenté, le nécessaire fait. Voilà.
Oui, bien sûr. Et du coup, pourquoi être devenu avocat ?
Bon, parce que pour le coup, c'était l'aboutissement, enfin c'était le souhait de quand j'ai commencé mes études de droit, donc c'était vraiment un aboutissement. Ouais, c'était vraiment un aboutissement, même si aujourd'hui je n'ai pas de robe et que puisque je ne la porte pas, donc. Mais oui, au moins une fois dans ma vie, porter la robe et prêter le serment, parce que c'est fondateur de la profession quand même. C'était voilà, donc c'était aller au bout de mes études, au bout de ce que je voulais faire.
C'était concilier la projection de jeune fille avec comment le métier a évolué,
oui,
pour vous.
Oui, oui, c'est ça. Et puis parce que je me suis posée. Alors évidemment, au cours des 8 années avant de pouvoir prétendre à la passerelle, il y a eu des phases d'interrogation à me dire, bon, est-ce que alors j'ai commencé mes études de droit parce que je voulais être avocat, est-ce que finalement je veux toute ma vie exercer en cabinet, est-ce que j'aurai véritablement besoin de ce titre, ou est-ce que je vais pas m'orienter à un moment donné vers une entreprise, voilà. Et puis finalement je me suis dit, bah puisque tu remplis les conditions, tu seras allé au bout du sujet, même si...
ça n'enlève rien, quoi.
Oui, exactement. Même si tu portes pas le titre jusqu'à la fin de tes jours, ou enfin, ou presque, jusqu'à ta retraite. retraite, vaste sujet. Voilà, c'était aller au bout de... Oui, au bout de ce que je m'étais fixé, en fait.
Voilà. Peut-être d'ailleurs qu'avec cette retraite, enfin, si vraiment ça passe, peut-être qu'il y aura un renouveau des juristes en cabinet.
Oui,
plutôt
oui,
que
ouais, oui, sans doute. C'est pas forcément ce qui serait pas forcément une bonne chose pour la profession, mais oui, c'est le risque, effectivement.
Bon, on va pas faire de la politique non. Ici. Mais, en tout cas, donc vous quand même, vous voulez devenir avocat. C'est intéressant. Enfin, que même si en pratique, vous n'aviez pas besoin ni du titre ni de la robe.
Non, parce que dans les faits, enfin surtout aujourd'hui où les statuts, le statut même d'avocat en cabinet évolue beaucoup. Alors il y a toujours des statuts d'avocat collaborateur, mais c'est de moins en moins la norme. Il y a beaucoup de statut d'avocat salarié, ce qui s'approche en fait du juriste. Hein,
oui.
Cabinet, donc,
Après, je crois que les chiffres vont plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus de juristes en cabinet et maintenant, il y a plus de collaborateurs. Si je me souviens bien,
ça dépend des structures.
Ouais,
ça dépend des structures. Il y a des structures qui se sont beaucoup, beaucoup fait taper sur les doigts.
Ouais.
Donc, voilà, bon, ça existe encore. Après, moi, je ne suis pas forcément... pour le coup, je suis passée par tous les statuts.
Et vous avez vu une différence, justement ?
Non.
Non.
Non, j'en ai pas vu parce que, en fait, le client ne se préoccupe pas du statut. Voilà, moi, quel que soit le cabinet par lequel je suis passée, j'ai des clients pour lesquels je travaille depuis un certain temps déjà, certains depuis 2005. Et voilà, je suis passée de cabinet en cabinet. J'ai évidemment systématiquement informé, systématiquement on m'a dit bah oui, ok, très bien. De toute façon, nous, c'est Marie-Laure qu'on veut, donc voilà, ça ne change rien, oui. En fait. Pour le client, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est la relation de confiance. Le reste...
Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est aucun souci avec la stratégie à long terme, quoi. C'est-à-dire que je serai avocate dans 8 ans, fine. Ouais. Enfin, ouais.
Oui, oui, c'est sans doute. Enfin, oui, je c'est pas quelque chose. Je vais pas dire que je vis au jour le jour, mais quand même un peu, j'avoue. J'ai pas de projection professionnelle, hein, en tout cas, j'entends. J'ai pas de projection à 10 ou 15 ans, quoi. C'est, pour moi, c'est vraiment, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je le vis plutôt bien, hein, c'est vraiment me dire il y a toujours des opportunités qui se présentent. Au moment où elles se présentent, bah, je l'étudie ou je l'étudie pas, fonction voilà, de
où j'en suis.
D'où j'en suis, exactement. Mais sans forcément avoir effectivement de stress par rapport à ça. Parce que justement, les études, enfin pour moi, les études de droit, ça mène à tout. C'est le côté intéressant aussi, c'est que ça mène à tout, ça ouvre plein de portes. Voilà, je me suis spécialisée dans une branche, mais ça m'a, enfin, ça permet surtout d'apprendre à réfléchir en fait, les études de droit. Donc après, on en fait tout un tas de
choses.
Oui,
c'est un moyen et pas une fin, quoi.
Exactement.
Et on en revient à de quoi a besoin le client, et puis après le titre, le truc,
c'est
accessoire. Et donc vous avez dit que vous avez fait plusieurs structures.
Oui.
Cette première structure que vous avez quittée, donc 12 ans plus tard, c'est ça ?
12 ans. Alors, je l'ai quittée sans, enfin, pas immédiatement. Ça a été long. Ça a été long. En fait, alors, au bout de 12 ans, j'ai, pour des raisons personnelles, je suis arrivée à Poitiers. Donc, j'ai pris.
Changement de ville.
Changement de ville, changement de vie. J'ai à l'époque, évidemment, informé le cabinet pour lequel je travaillais que j'allais donc démissionner. Et en fait, de même, le cabinet, enfin de lui-même, le cabinet m'a dit, bah, Poitiers, Paris, c'est pas le bout du monde, hein. Donc, tu vas faire un peu de télétravail et puis venir à Paris une ou deux fois par semaine. Et puis, on a travaillé comme ça pendant 2 ans.
Est-ce que ça a été... Enfin, non, je suppose que ça a dû être... Parce que j'allais dire... Quand on fait du droit des affaires et en plus qu'on conseille des fonds d'investissement, tout ça, partir de Paris pour venir à Poitiers, doit y avoir un peu un stress, non ? Par rapport au type de dossier, à la qualité, à la qualité des dossiers, aux enjeux peut-être.
Oui, alors le stress par rapport aux dossiers eux-mêmes, pas tellement, parce qu'on était déjà à une époque où, oui, alors être à Paris. Dans ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est primordial parce qu'on va en rendez-vous, on est à 15 minutes de chaque client. Donc voilà. Mais on était déjà à une époque où il y avait de moins en moins de réunions physiques, en fait. Beaucoup plus d'échanges téléphoniques, des conférences téléphoniques, des échanges par mail, etc. Donc ça m'a pas forcément inquiété à cette époque-là. Après, ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est de travailler de la maison. Parce que j'étais pas habituée, parce que ça manque d'effervescence quand même quand on est à la maison derrière son ordinateur. Donc même en allant à Paris une ou deux journées par semaine, c'est une situation qui était devenue assez vite pesante quand même.
C'est pour ça que vous avez préféré finalement quitter la structure ?
Oui, parce que alors par ailleurs le cabinet, enfin l'associé pour lequel je travaillais a quitté le cabinet qu'il avait fondé à l'origine pour aller s'associer dans un autre cabinet. Donc j'ai suivi le mouvement, mais là pour le coup c'était déjà une structure plus grosse, et donc difficile pour moi de faire ma place sans être là en permanence. Et puis voilà, le temps passant, c'est vrai que c'était devenu compliqué de voir personne, de pas pouvoir échanger, de pas pouvoir, même si voilà, il y avait Skype, il y avait plein de choses, mais
c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose que de prendre un café et discuter d'un sujet. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a. Ouais, le contact humain m'a vite manqué. Et donc, j'ai décidé de voir un peu ce qui pouvait se passer localement.
Et d'ailleurs, ça vous a plu, Poitiers ?
Oui, je me suis assez vite, je me suis assez vite adaptée. J'ai pas, enfin, je trouve que c'est une ville dans laquelle les gens sont plutôt accueillants. Ça change de Paris. C'était même assez bizarre au début parce que j'ai eu un temps d'adaptation à Paris en me disant mais pourquoi les gens courent partout, mais pourquoi les gens sont si indifférents, mais pourquoi voilà. Et puis après 12 ans de vie parisienne, quand je suis arrivée à Poitiers, c'était l'effet inverse. Mais pourquoi les gens sont si gentils? Ça cache quelque chose. Voilà. Donc il y a eu une phase d'adaptation, mais c'était beaucoup plus facile dans ce sens-là que dans le sens précédent, évidemment. Non, ouais, l'adaptation s'est fait quand même relativement vite.
Et vous avez dit par rapport au barreau local,
Oui.
l'adaptation par rapport au barreau local.
Alors là, ça a pris un peu plus de temps.
Ouais, il y a 300 avocats, c'est ça, à Poitiers
Un
environ?
peu plus, oui, un peu plus maintenant, un peu plus de 300 avocats. Enfin, le barreau local, oui, ça a mis beaucoup plus de temps, puisque en fait, le premier contact s'est fait pour l'inscription, donc le transfert de barreau à barreau. Et puis je suis pas allée au-delà de ça. J'ai pas cherché à m'intéresser plus que ça. À ce qui pouvait se passer au sein de ce barreau, j'avoue. Parce qu'il y avait aussi, il y avait aussi une phase d'adaptation, parce qu'en fait, mon métier a nécessairement évolué en rentrant dans la structure dans laquelle je suis rentrée à Poitiers, puisque j'avais d'autres typologies de dossiers, on va dire, donc avec aussi une phase d'adaptation, puisque nécessairement, il n'y a pas forcément de. Enfin, les fonds d'investissement, la clientèle de fonds d'investissement reste. Attaché à des cabinets parisiens. Donc la nature même des dossiers a été modifiée et on était plus sur du conseil manager dirigeant. Donc un peu plus de l'autre côté, alors y compris enfin, pour des sociétés qui avaient des fonds d'investissement ou qui ont des fonds d'investissement dans leur capital, mais du coup de l'autre côté, on va dire, de la barrière, entre guillemets.
Et mais en fait, pardon, je suis en train de connecter les points dans ma tête, mais donc vous êtes venu à Poitiers, mais il s'est écoulé environ 2 ans avant que vous vous inscriviez au barreau d'ici.
Je suis restée inscrite au barreau de
Ouais,
Paris
vous êtes restée inscrite
pendant
au
deux
barreau
ans.
de Paris pendant
Exactement.
2 ans, et ensuite, donc ça a été une transition en plusieurs phases.
Exactement.
C'est
Exactement.
peut-être pas plus mal d'ailleurs. Enfin, je sais pas. Il
Oui,
y a
parce que, en
plusieurs
fait,
manières de.
quand je suis arrivée ici, de toute façon, comme j'exerçais toujours pour le cabinet parisien, nécessairement, il fallait que je reste inscrite au barreau de Paris, le cabinet n'ayant pas pour volonté d'ouvrir une structure à Poitiers. Donc voilà, et puis je m'étais dit que de toute façon, quoi qu'il se passe, j'avais la faculté de rester inscrite au barreau de Paris et de trouver. Un autre poste aussi dans un autre cabinet parisien. Donc voilà, c'est pas comme ça que ça s'est fait, mais.
Et vous avez eu des difficultés à trouver une structure
Non.
ici? Non?
Non, ça s'est fait très vite. À partir du moment où j'ai pris la volonté, enfin, que j'ai eu la volonté de quitter la structure parisienne et de voir ce qui se passait localement en mettant. Mon CV sur un ou deux sites appropriés, j'ai été contactée très très vite. Donc ça aussi, enfin voilà, est-ce que tout ça participe du fait que voilà, j'éprouve pas de stress particulier par rapport à ce métier, mais parce que des postes à pourvoir, il y en a en permanence, il y en a partout, il y en a voilà après. Ça s'est fait très très vite et effectivement, je crois oui, le temps de mon préavis, enfin, entre la mise en ligne de mon CV sur des sites appropriés et la prise de décision, il a dû s'écouler pas plus d'un mois, quoi. Donc,
Ah oui, très rapide.
voilà. C'est vrai que tout ça a sans doute participé au fait que j'ai pas de stress. Parce que voilà, même si quand j'ai quitté Paris, on m'a dit oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir que tu changes complètement de spécialité, que tu te mettes à toucher à d'autres matières, etc. Non, non, même
J'ai un
si
cerveau, c'est fait pour ça.
oui, non, non, mais même si le métier est un peu différent, hein, comme je vous le disais, puisqu'on est plus sur du conseil dirigeant et manager, mais c'est même plus. Enfin, je ne vais pas dire que c'est plus intéressant parce que c'est pas. c'est pas le cas, mais rien que le changement, c'est motivant, ça fait partie aussi de l'épanouissement, de découvrir des métiers, des contraintes différentes, des histoires différentes.
Un nouveau tissu économique aussi.
Oui, ça, oui. Enfin, encore que le tissu économique, par rapport à ce que je faisais à Paris, je découvrais à chaque fois et à chaque dossier quasiment un nouveau métier, puisque la cible qui était l'entreprise au sein de laquelle le fonds souhaitait investir, on commençait par faire évidemment un audit juridique, et donc à chaque fois je découvrais un métier, ses contraintes, etc. Et c'est ce qui m'a toujours plu aussi, quel que soit le client, que ce soit le fonds d'investissement ou le dirigeant, ça fait partie des choses intéressantes, puisqu'on apprend en permanence plein de choses sur des métiers différents, des contraintes environnementales, administratives. Voilà, ça fait partie des choses très intéressantes pour moi dans ce métier.
Et vous êtes arrivée ici, chez Acti, ou vous êtes...
Non, je suis passée par une autre structure.
Par une autre structure
au sein de laquelle j'ai exercé presque 5 ans. Mm-hmm. Et puis je suis arrivée chez Acti, c'est très récent, je suis arrivée chez Acti en juillet 2019.
D'accord, donc il y a 6 mois,
un an. Ouais. Voilà.
Qu'est-ce qui a motivé ce changement ?
Le projet d'Acti.
Parce que c'est un jeune cabinet ?
Alors, c'est un cabinet qui existe depuis déjà un certain temps, mais c'est un cabinet interbarreaux. Donc, siège est à Niort.
D'accord, Niort.
Niort, La Roche-Posay, Fontenay-le-Comte, Poitiers, Nantes. On a également des bureaux à Paris et on avait des bureaux à Angoulême.
Donc vraiment l'Ouest.
Ah oui.
L'Ouest, oui. Depuis l'Atlantique, donc La Rochelle, oui. Jusqu'en s'enfonçant plus dans les terres, La Roche-Posay. Alors moi je connais parce que je suis d'ici, mais pour situer les auditeurs, centre-ouest,
Ouest de Nantes, on descend, enfin le on n'est pas jusqu'à Bordeaux, surtout.
Ouais, c'est pour ça, centre-ouest, depuis La Rochelle, on monte un peu vers Niort et on va au centre jusqu'à La Roche-Posay.
Exactement. Donc le siège historique est à Niort. Et en fait, le bureau de Poitiers a eu quelques aléas, on va dire. Et donc, à l'origine, ils n'avaient pas forcément en tête de développer le secteur droit des affaires, droit des sociétés sur Poitiers. L'occasion s'est présentée. J'ai fait la connaissance de Jean-René Ozano, qui est donc le président d'Acti. Il m'a dit ta carte blanche. Donc il y a tout à faire.
Comment ça s'est fait cette rencontre
J'étais pas forcément en demande, mais on va dire que les réseaux sociaux qui permettent aujourd'hui de faire des connaissances nombreuses, j'avais laissé entendre que j'étais à l'écoute du marché. Donc je savais pas trop. J'étais dans une période début 2019 où je me disais faut que ça bouge, faut qu'il y ait quelque chose qui change là professionnellement.
Sentiment. Pourquoi ?
Parce qu'un sentiment de vivoter, de plus avoir la pêche dans ce que je faisais. Alors pour diverses raisons, mais j'ai pas forcément envie de parler. Mais le besoin de me dire là, faut qu'il y ait quelque chose qui change et il faut que j'ai le sentiment d'être sans doute d'être un peu moteur aussi. On était juste après mes 40 ans.
D'accord, me dire donc on est sans dans doute, un mélange personnel.
Ouais, c'est ça. De me dire là maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose qui change professionnellement. Il faut que ça évolue et que ça évolue. En tout cas, qu'on me donne ma chance de faire mes preuves vraiment.
Donc un besoin de challenge.
Oui, exactement.
Ce que je comprends, c'est ça, un ouais, besoin exactement. De challenge. À ce stade, ça fait combien de temps que vous exercez comme avocate, mais incluant la période de jury, c'est-à-dire que vous faites des fonctions d'avocat?
Ah bah, j'ai commencé en 2002.
En 2002.
Oui, donc on est à...
18 ans plus tard.
Ça fait mal, c'est ça, 18 ans.
Non, mais pour remettre dans le contexte ce besoin de challenge.
Oui, c'est ça.
Et parce que si je regarde, vous avez cette structure dans laquelle vous évoluez pendant 10 ans environ.
Oui, 12 ans, ouais, presque.
10-12 ans où vous grandissez avec la structure. Ouais. Il se trouve que vous êtes venu à Poitiers pour des raisons personnelles, ce qui a, je suppose, eu un impact quand même sur votre évolution dans cette structure. Ça a été un crève-cœur ?
Ça, oui et non. En fait, j'en ai pas. Enfin, je sais que les choses auraient été différentes si l'associé pour lequel je travaillais à l'époque ne s'était pas lui-même trouvé dans une situation difficile. Je lui en ai pas voulu parce que effectivement je savais en fait au moment où il a rejoint l'autre structure, je savais que ce serait pas facile pour moi de faire ma place puisque par définition j'étais pas là, donc c'est compliqué d'intégrer une structure en étant là qu'une journée par semaine. Voilà, au moment où cette décision a été prise et au moment où j'ai suivi le mouvement, je savais que ce serait difficile et je savais aussi que sur la durée, c'était pas quelque chose qui était jouable pour moi. Parce que j'essaye de concilier vie familiale, vie professionnelle.
On en parlera.
Et que, voilà, donc je m'étais dit sur la durée, ça va pas être.
Ça va monter dans un cabinet où on ne connaît pas et qu'on découvre à distance, c'est compliqué.
Même si, j'ai pas à me plaindre de l'intégration. Hein. J'ai toujours été associée à tout ce qui était organisé par le cabinet, etc. Mais de fait, on est obligé de constater que les rapports sont forcément différents par la distance, en fait. Mmh.
Et ensuite, le cabinet que vous avez intégré en premier à Poitiers, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de perspective d'évolution chez eux.
On m'en a annoncé et à mon goût, elles n'arrivaient pas assez vite.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est normal que quand même 15 ans plus tard, il y ait une envie de...
Oui, je pense que...
C'est une évolution normale comme professionnelle.
Oui, je pense que c'est une évolution normale. On va dire que je suis capable de supporter des choses longtemps en me disant ça va venir, etc. Mais à un moment donné, quand ça bouge pas, moi c'est le principe de la cocotte minute, quoi. Voilà, quand le bouchon a sauté, et j'ai besoin de challenge dans ma vie à relever en permanence. Faut aller de l'avant et je suis pas du genre, même si je peux concevoir que ce soit fatigant, notamment pour mon entourage, faut que ça bouge quoi, faut que ça bouge.
Et donc dans cette étape de il faut que ça bouge. Réseaux sociaux, hein, vous découvrez le projet d'Acti ou est-ce que...
Alors, je connaissais Acti, puisque on est à Poitiers, donc forcément, on a connaissance des différents cabinets qui pratiquent la même activité. Donc, je connaissais Acti, je connaissais pas spécialement Jean-René Ozano. La curiosité toujours, hein, on entend toujours beaucoup de choses, mais moi je pars toujours du principe que je dois me faire ma propre idée par moi-même. Donc je me suis dit pourquoi pas.
Vous l'avez contacté ou...
C'est lui qui m'a contacté en me proposant de se rencontrer, de discuter, et puis je pense que, alors c'est quelqu'un de très, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien, et d'ailleurs il me fait penser un peu au premier associé pour lequel j'ai travaillé, il est très cash, du coup ça me permet à moi aussi d'être très cash, et donc tout va bien. Tout va bien parce que même si on a des choses désagréables à se dire, on se les dit. C'est encore jamais arrivé, mais je sais que ça pourra être dit et qu'il m'en tiendra par rigueur et que je lui en tiendrai par rigueur parce que c'est aussi une façon d'avancer, en fait. Voilà, moi, je... J'aime pas les non-dits, j'aime pas les... voilà, c'est mon côté un peu brut de décoffrage. Et j'aime bien qu'on le soit avec moi aussi.
Mais quand, quand vous étiez à cette écoute du marché et que lui, il est venu vers vous pour vous proposer quelque chose, vous lui avez envoyé des signaux ou ça a été un
peu une conjonction d'étoiles ? Moi, je lui ai dit clairement que si...
Vous lui avez écrit ou dit
Je lui ai dit clairement, moi aujourd'hui, j'ai besoin d'évolution, j'ai besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin de montrer ce que je sais faire. Alors, en rendant des comptes, hein, évidemment, mais pas tout le temps, pas à chaque seconde, pas...
Ça fait 18 ans que je bosse, merde.
Ouais, c'est un peu ça, quoi, voilà. Tout en me disant, parce que c'est aussi une question que je me suis posée, tout en me disant, est-ce que je vais poser ma plaque ? Ça, c'est la question que je me suis posée, est-ce que je vais poser ma plaque ? Et ma foi, il y a des secteurs dans lesquels c'est pas évident d'aller poser sa plaque toute seule quand on a des cabinets qu'on peut considérer comme étant des gros mastodontes sur le secteur. J'ai préféré, parce que la proposition qui m'a été faite était alléchante, de me dire je bénéficie déjà d'une structure existante. Le deal a été totalement respecté, donc il y a tout à faire.
Donc intégrer une culture et développer pour le bureau local
exactement.
Le droit des affaires et le droit des sociétés. Que faisait le bureau Poitiers principalement ?
Alors, le bureau faisait déjà tout ce qu'on appelle alors droit des sociétés pur, hein, donc tout ce qui est juridique annuel. D'approbation de compte, un peu de juridique exceptionnel, mais il n'y avait pas forcément suffisamment de monde, en tout cas sur la dernière année, on va dire, il n'y avait pas quelqu'un ici en permanence pour gérer des dossiers un peu plus conséquents. Parfois. C'est des dossiers qui partaient alors même que c'était parfois un client cabinet. Pour une session ou une opération un peu plus grosse, ça partait à la concurrence. Donc l'idée, c'est que...
C'est de les garder.
Exactement.
Ben oui. Et alors, pour situer aussi les interlocuteurs, on n'est pas à Poitiers-Centre, on est à Chasse-Neuil.
Oui.
Chasse-Neuil, c'est la ville du Futuroscope.
Exactement.
Ce qui parlera sûrement beaucoup plus.
Voilà, on est à peu près, moins d'un kilomètre du Futuroscope.
Oui, c'est juste à côté.
Sur le Futuroscope.
Ah oui, effectivement, nous voyons le Futuroscope. Moi, je suis une très mauvaise poitevine, puisque ça doit faire 15 ans que je ne suis pas allée au Futuroscope. Mais, c'est entre Poitiers et le Futuroscope, il y a toute une zone économique, c'est pas une zone industrielle, c'est plutôt une zone vraiment économique avec plein d'entreprises. Et c'est vos clients ?
Alors, il y a évidemment une grosse partie de la clientèle qui est locale, mais pas uniquement. On a quand même des entreprises un peu partout, pas forcément ni sur le secteur géographique, ni même si c'est le cœur de la clientèle, mais c'est pas aussi précis que ça, et je suis assez bien placée pour dire que quand le client est attaché à quelqu'un et à un conseil et à confiance où qu'il se trouve, moi, les quelques clients que j'ai gardés et donc apportés aujourd'hui à Acti depuis que je suis arrivée sont pour l'essentiel parisiens.
C'est aussi ce que dit Clarisse Bérébi, par exemple, qui a commencé sa carrière à Paris, qui s'est installée et associée à un moment à Angoulême, et qui est repartie à Paris et dont les clients l'ont suivie. Et vous, cette clientèle personnelle, vous avez commencé à la développer donc à Paris quand vous êtes devenue avocat
Oui, les liens. Alors, il y a la clientèle qui existait au sein de ce cabinet-là et qui m'a toujours suivie. Alors, en accord d'ailleurs, quand j'ai quitté l'associé parisien pour lequel je travaillais, Ça n'a posé aucune difficulté, puisque comme le seul interlocuteur sur les dossiers était moi depuis des années, il n'y a eu aucun blocage de la part de l'associé pour lequel je travaillais. Et les clients m'ont naturellement dit, bah, nous, Marie-Laure, on vous suit, enfin, que vous alliez, voilà, donc c'est pas forcément un frein. Et les quelques clients nouveaux, on va dire, depuis, sont des clients pour lesquels je travaillais à Paris et qui m'ont rappelé pour des nouveaux dossiers. Ou, voilà, donc c'est vraiment, oui, on va dire que l'expérience fondatrice, c'était quand même bien les 12 années passées à Paris initialement.
Et maintenant, alors comment ça se passe cette nouvelle aventure? Parce que on est en plein cœur, oui. 6 mois plus tard, les engagements sont tenus.
Donc les engagements sont tenus.
Cette
marge de manœuvre. Je suis en train, même si c'est parfois compliqué, d'essayer de structurer le secteur. Heureusement, le nombre des sites fait que, voilà, même si je n'ai pas encore tous les effectifs ici, j'ai la faculté de me reposer sur d'autres personnes au sein de d'autres sites. Et ça, c'est, voilà, la distance, c'est quelque chose que j'apprécie ici, parce que, enfin, dans ce cabinet, c'est que la distance entre les sites n'empêche absolument pas d'avoir des relations. Enfin, très vite, j'ai été accueillie, très bien accueillie, très bien intégrée. Et la distance entre les sites permet quand même de s'appuyer sur les compétences des autres, à défaut d'avoir ici encore pour l'instant un effectif suffisant. Enfin, voilà, il y a énormément de travail, il y a tout à faire. Mais c'est du bon stress. Voilà, c'est du bon stress, parce que il n'y a pas de, enfin voilà, il y a pas de mauvaise ambiance, il y a pas, voilà, on me laisse exercer mon métier, c'est bien. Et c'est très épanouissant. D'ailleurs, je crois que ça se voit, puisque les gens me le disent. En fait, c'est assez.
Avez le sourire.
Assez drôle, parce que j'avais l'impression de m'être un petit peu fanée.
C'est dur comme.
Ouais, mais parce que vraiment, c'est quand je dis j'associe le personnel et le professionnel, il y a eu vraiment cette étape des 40 ans. À titre personnel, où je me suis dit, bon, regarde un peu derrière toi. Ok, personnellement, ça va. Enfin, ça va. Voilà, t'as 3 beaux enfants, c'est super. Maintenant, ils sont faits. Il faudrait que ça décolle un peu aussi professionnellement. Comment? Quels sont les moyens dont tu disposes? Est-ce que t'auras véritablement la faculté de le faire? Est-ce que, voilà. Donc, il y a toutes ces questions qui m'ont un peu mangé la tête quand même, on va dire, sur une période où je pense que du coup ça se voyait, hein, sans doute, et ça se ressentait sans doute. Voilà, et c'est vrai que depuis croise certaines personnes depuis 6 mois, elles me disent, oh là là, mais t'es métamorphosée, t'as la banane tout le temps, t'as l'air bien, t'as l'air motivée, épanouie, oui. Oui, donc voilà. Donc là aussi, un choix qui s'est fait sans stress, parce qu'au moment où ma décision a été prise de rejoindre Acti, là encore, peut-être de manière totalement inconsciente, hein, mais pas de stress particulier de me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. En fait, voilà, c'est un challenge, je me dois de le remplir, en tout cas de me donner les moyens de. Voilà.
Et c'est ce dont vous aviez besoin, donc
ouais.
C'est.
Oui, exactement. C'est vraiment. Oui, aujourd'hui, ma vie de maman n'est pas derrière moi, hein, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué, hein, pour les femmes d'essayer de concilier la vie de famille, enfin la vie de maman et la vie professionnelle. En même temps, c'est pas impossible, et pour le coup, ça aussi, ça fait partie des challenges que j'ai envie de relever.
Et alors, justement, comment vous conciliez actuellement vie professionnelle et vie personnelle, en plus dans une période de challenge où, voilà, on vous donne des rênes, quoi.
Donc, ouais, en fait, là aussi, je pense que j'ai été assez claire dès le départ en arrivant ici, en disant, voilà, j'ai besoin d'être bien dans mon boulot. Je sais que si j'y suis bien, je suis capable de donner un maximum de choses. Mais je suis maman, Et tout ça doit pouvoir être compatible, en fait. Et à partir du moment où les choses sont dites et où, là encore, aujourd'hui, on dispose de moyens. Voilà, je sais qu'il y a 30 ans, il fallait être présent au bureau, derrière un fax, derrière un téléphone. L'ordinateur portable, les connexions Wi-Fi et, et tout ce qui s'ensuit permet d'avoir, enfin, ouais, de réussir à tout cumuler. Et alors même si de temps en temps, évidemment, je me dis, oh là là, je devrais être plus présente pour mes enfants. On n'est jamais totalement satisfaite, hein, mais voilà, je pense que mes enfants me voient aussi. Ils voient que je cours partout, et en même temps, je crois qu'ils m'ont toujours vu courir partout, donc ils mettent pas forcément ça en lien avec avec ce nouveau poste. Et quand je suis avec eux, j'essaye de ouais d'en profiter au maximum.
C'est quoi votre journée type? C'est quoi la journée type d'une avocate en droit des affaires à Chasse-Neuil?
Il y en a trois de journées dans la même journée. Il y a les enfants le matin au réveil. Il y a la journée de travail
qui commence
vers 9h, une fois que les deux plus petits sont rentrés à l'école. Et puis elle se termine. Quand c'est possible, vers 18h30 pour aller les récupérer à l'école. La troisième journée commence donc avec la soirée avec les enfants, puis le quotidien d'une maison à gérer évidemment. J'essaye, même si c'est pas toujours facile en fonction des périodes, hein, y a évidemment des moments où une quatrième journée recommence après le dîner des enfants. Bon, mais ça, faut pas que ce soit la norme parce que voilà, parce que sinon ça devient vite compliqué. Mais voilà, donc la journée type, oui, c'est ça, c'est un peu la course du matin au soir, c'est un peu la montre sans arrêt. Et il faut pas qu'il y ait un grain de sable.
Est-ce que vous avez l'impression que le rythme d'ici est différent du rythme parisien par rapport au... qui est un peu...
Oui,
donc le rythme, même. Il est quand même un peu dicté par les clients.
Oui, bien sûr.
Et en quoi et qu'est-ce que...
Les horaires. Les horaires sont quand même vraiment différents. On commence plus tôt le matin, évidemment, mais on finit aussi nécessairement plus tôt. En fait, l'amplitude de la journée est identique. C'est simplement l'heure de début et l'heure de fin qui peut varier. Même si, le métier en lui-même et les dossiers sur lesquels j'interviens font que nécessairement, à l'approche d'une signature, les 15 jours ou 3 semaines qui précèdent.
Oui, ça c'est Paris, Poitiers, c'est partout.
Exactement,
quoi.
La contrainte est la même, puisque même si on a essayé d'être...
Le plus organisé en amont possible.
Là aussi, s'il n'y a pas le petit grain de sable, c'est pas drôle. Donc voilà, mais ça fait partie aussi des choses qui, justement, moi, me font aimer ce métier. Enfin, voilà, c'est parce que on a beau essayer d'être... c'est inhérent au métier, hein, d'être hyper organisé, hyper... mais voilà, il y a toujours le petit truc que personne n'avait prévu, que personne n'avait anticipé, que voilà, ça fait partie des choses moi qui me stimule et qui me booste et qui me font apprécier ça. Alors, je sais pas si ce sera le cas encore pour les 30 prochaines années, mais en tout cas pour l'instant voilà, ça fait pas c'est pas des choses qui sont un frein pour moi à l'exercice de ce métier. Voilà.
Et puis, bon, quand ça changera, vous changerez.
Oui,
comme vous avez toujours fait.
Sans doute. De toute façon, aujourd'hui, dans le monde du travail, quel qu'il soit, d'ailleurs, hein, dans notre métier d'avocat, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers, il faut être en permanence à l'écoute des évolutions, des besoins et savoir s'adapter. Sinon, c'est très compliqué, je pense.
Est-ce que, en parlant d'évolution du métier, est-ce que vous avez l'impression d'être en prise aussi avec les évolutions technologiques de la profession ?
Oui. Alors moi, je me souviens à mes débuts, où la timidité, la crainte, le manque d'assurance du début, etc. Je me souviens du premier associé pour lequel je travaillais, je partageais son bureau. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très formateur d'être dans le même bureau. Et quand il me disait, bah, tiens, il faudrait que tu vois avec tel point, avec un tel, etc. Et donc, j'envoyais un mail. Il me disait, prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Le contact, ne serait-ce que vocal, et te cache pas derrière ton ordinateur. Voilà. Donc ça a mis du temps, hein, mais j'ai fini par comprendre, et effectivement par comprendre que la relation était bien plus intéressante, en fait, parce qu'il y a moins de quiproquos au téléphone. C'est-à-dire que si, on sent tout de suite quand l'interlocuteur n'a pas compris ou a pu confondre, ou voilà, ce qui n'est pas le cas derrière un ordinateur. Et les évolutions technologiques font qu'aujourd'hui, on reçoit de plus en plus de mails, quoi. Enfin, là aussi, ça fait partie des choses qui peuvent vite être source de stress. Parce que, voilà, un coup de fil, on y répond, c'est réglé, c'est traité. Voilà, les écrits, de plus en plus d'écrits, de mails, etc., font que on est amené soi-même à en envoyer de plus en plus. Donc, c'est très chronophage, ça ne fait pas forcément avancer un dossier. Et ça peut générer un certain nombre de quiproquos. Voilà. Donc, moi, j'essaye au maximum de prendre mon téléphone pour essayer d'appeler, alors évidemment, le client, mais également mes confrères.
Mais est-ce que finalement, parce que quand je pense évolution technologique, je pense aussi aux problématiques, c'est pas un problème, mais au sujet des legal tech, des automatisations des actes qui sont de plus en plus...
Ah oui, mais ça c'est... Alors, ça,
et
c'est
dans ce
vrai.
Contexte-là, j'allais dire, en fait, savoir prendre son téléphone, oui. et l'avoir appris très tôt, finalement, c'est une super leçon, parce que ce qui ressort quand même de ces évolutions technologiques, c'est que c'est le contact humain qui va faire la différence.
C'est le contact humain qui va faire la différence. C'est le contact humain qui va permettre de comprendre la particularité, parce que la norme, moi je considère que la norme, elle existe pour partie, et encore, je passe mon temps dans les entretiens ou avec les gens que je forme à expliquer que oui, on a plein d'outils hein, pour rédiger des actes aujourd'hui. Ça ne doit surtout pas éviter de réfléchir et empêcher de réfléchir. Surtout pas. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi de se différencier vis-à-vis du client, hein, puisque tous les cabinets ont les mêmes outils, ou presque. Ouais. Donc nécessairement, si on ne fait pas la différence avec nos confrères, le client va se dire, mais en fait, ils remplissent des blancs. Donc, pour moi, c'est la perte du métier. Que de rentrer dans des actes hyper normés, voilà. Et puis après, il y a des matières dans lesquelles, enfin, tout ce qui est opération de cession et d'acquisition, la norme, elle est juste pas possible. Elle est, voilà, il y a des pratiques qu'on peut retranscrire. L'acte totalement normé, et on repart d'un document où on change simplement des noms, des dates. Non. Enfin, voilà. Moi, c'est pas comme ça que j'ai appris. C'est pas comme ça que j'ai appris à travailler, et sans doute parce que j'ai là aussi l'associé pour lequel je travaillais était absolument contre tous les outils modernes, et pourtant pas très âgé, hein. Mais voilà, l'email déjà, il a eu du mal à s'y mettre, donc voilà, et donc il rédigeait tout à la main. Il partait d'une feuille blanche systématiquement. Donc voilà, ça fait partie de la façon dont j'ai été formée, et on va dire que ça reste ma façon principale de travailler, même si je pars pas d'une feuille blanche, je pars d'un document Word blanc ou presque. Mais voilà, je fonce jamais bille en tête dans un document en me disant tiens, je vais reprendre cette base et puis je vais compléter. Jamais. Je passe d'abord du temps à analyser et à me dire bah tiens, là il faut que je mette ça, là je vais préciser ça, là voilà. Donc et ça aussi, enfin, ça fait partie, ouais, des choses que j'adore dans ce métier, en fait, parce que c'est la stimulation intellectuelle, voilà, la vraie, de se dire faut que j'écrive ça, mais voilà. Comment, pourquoi, enfin voilà, ça fait partie des choses qui, moi, m'intéressent, donc tout sauf la norme, justement. Et voilà, ça reste important d'avoir des bases de données, mais c'est pas suffisant à mon sens.
Et le développement de clientèle, ici, vous faites comment ?
Alors, Moi, ici, j'ai pas, il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'empêchement, on va dire, sur le sujet, surtout, puisque voilà, j'ai carte blanche hein, sur la gestion de mes dossiers, de mes agendas, etc. Donc, c'est là aussi le manque d'investissement, on va dire, dans des structures et organismes professionnels pourrait être un frein. Ça fait partie aussi des choses où j'ai un prochain objectif, être plus présente au sein d'organismes professionnels, etc. Et en même temps, c'est le bouche à oreille et le. C'est un métier dans lequel, en fait, quelqu'un va dire, bah tiens, j'ai un projet devant mon entreprise à quelqu'un avec qui j'aurais, enfin pour qui j'aurais travaillé, qui va dire, bah tiens, je connais, voilà. Donc ça se fait assez naturellement sans forcément.
Vous n'avez pas mis en place d'action
Non,
particulière de
pas
développement?
particulièrement. Pas particulièrement parce que. Enfin, on exerce un métier dans lequel la confiance est primordiale, en fait. Donc, alors le démarchage, ça dépend. On peut se faire taper sur les doigts aussi avec le démarchage de clientèle. Donc, voilà. Et puis parce que la confiance est tellement importante que. Et moi, j'ai besoin de ça. Il m'est arrivé de travailler sur quelques dossiers de connaissances, de connaissances, de connaissances. Et où très vite j'ai compris qu'on ne donnait pas tous les éléments nécessaires à ma complète information. Et là, c'est assez inconfortable en fait. Donc voilà, j'ai pas mis en place d'action particulière. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment
Pour le moment, ça tourne au bouche à oreille.
ouais, exactement, exactement. Et
Et ça tourne bien au
bah, ça
bouche à
tourne
oreille.
bien parce que sans doute parce que je suis pas allée poser ma plaque hein, et que voilà il y a aussi ce confort-là hein, mais oui non pour l'instant au sein d'Acti il y a déjà énormément de choses à faire et puis moi j'arrive avec quelques clients j'espère les renouveler j'espère que là aussi le bouche à oreille fonctionnera ça fonctionne voilà pour l'instant il n'y a pas d'action particulière qui ont été menées
Donc
sur
surtout
ce
une
sujet.
concentration sur la structuration de l'activité en
Oui.
interne et
Oui, moi je me
après
suis
il y a des temps
engagée.
pour tout aussi,
Ouais, il y a un
enfin.
temps pour tout, exactement. Et je me suis engagée à structurer et essayer de développer ce secteur une fois que, voilà, que les pierres fondatrices auront été posées. Oui, mon souhait après, c'est aussi d'évoluer un peu différemment dans la formation. Voilà,
Vous
pourquoi
pensez à
pas.
quoi?
Aller donner quelques cours au sein de l'ECOA, du DJCE, pourquoi pas. Voilà, essayer d'ouvrir un peu mon champ de vision.
Une envie de transmettre?
Ouais, de transmettre, je sais pas, mais d'avoir aussi, parce que d'avoir aussi le regard des jeunes qui vont entrer dans la profession, sur le métier, ses évolutions, leurs attentes. Je pense que c'est important aussi. Quand on est quand on a une certaine expérience d'entendre ça et d'évoluer dans le bon sens par rapport à ces futures générations aussi. Voilà, donc ouais, essayer de faire mon métier mais aussi d'ouvrir sur d'autres choses. Mais ça viendra dans un second temps.
Oui, on ne peut pas tout mener
Non, on
toujours.
peut pas tout. Enfin, ou si on peut, mais on peut tout mal faire.
Ouais.
Donc c'est pas, voilà, c'est pas la volonté initiale. Mais oui, ça fait partie des choses aujourd'hui où après cette étape-là, de me dire tiens vers quoi je vais m'orienter pour essayer d'ouvrir un peu mon champ de vision effectivement.
Et par rapport à votre. Enfin, c'est pas un. Ce que je comprends, c'est que c'est pas non plus un complexe, un gros mot complexe, mais de non-engagement ou de distance par rapport aux organismes de la profession. Est-ce que ça fait partie de vos projets de plus vous investir? au niveau local ou en fait ça vous va bien d'exercer comme ça?
Non, ça me va pas forcément parce que non, c'est forcément pas satisfaisant. Mais voilà, je me suis pas accordé le temps jusqu'à présent en me disant bon bah de toute façon il y a bien assez de gens investis et là notamment enfin, tous les mouvements liés à la réforme des retraites, etc. Je me rends compte que on a beau être plus de 300 inscrits au barreau, voilà, avec les quand il y a des périodes comme ça où ça nécessite une forte mobilisation, ben on a tous des contraintes, des dates, des choses, et il y a finalement pas assez de gens mobilisés. Donc voilà, maintenant j'y arrive petit à petit. Et là, le côté usurpatrice dont je parlais tout à l'heure, autant dans mon métier, par rapport à mes clients, par rapport à mes confrères, c'est quelque chose que... Alors, mes confrères, dans mon secteur d'activité, hein, les confrères que je peux avoir face à moi dans des dossiers, ou à mes côtés, quand on est parfois plusieurs conseils, autant au sein de l'ordre, ouais, c'est sans doute quelque chose... La passerelle, c'est sans doute quelque chose que j'assume moins bien. Et qui explique sans doute jusqu'à présent mon manque d'investissement. Et d'ailleurs, nous nous sommes vus à la soirée de l'inauguration de la Maison des Avocats vendredi, et j'ai discuté avec une consoeur assez connue qui me dit « Mais vous vous cachiez où jusqu'à présent ?» Voilà. Et là, ça a été assez révélateur pour moi de me dire « Elle a raison, en fait !» Sans doute qu'il y avait un peu de ça, et sans doute que jusqu'à présent, je me cachais pas, mais voilà, je me montrais pas, mais parce que par ailleurs, c'est vrai que j'ai pas le besoin d'aller régulièrement au palais, que Jean-René relève la case, donc il fait ça très bien, et qu'il n'y a pas de raison que ça change, voilà, mais donc... Oui, ça fait partie aussi des choses où je me dis il faut que ça change, il faut que je m'intègre un peu plus dans ma profession en assumant mon parcours.
Ouais. Voilà. Surtout que c'est loin quand même maintenant cette passerelle.
Oui, c'est loin, quoi. C'est loin, c'est sûr, c'est loin, mais voilà, ça. Je sais que j'ai pas encore dépassé le cap puisque, comme je vous le disais, j'ai pas de robe. Voilà, donc c'est une bonne raison pour moi de me dire je peux pas aller me manifester, j'ai pas de robe. Voilà, alors c'est une bonne sans en être une bonne, hein. c'est exactement l'inverse, c'est justement pas une bonne raison. Donc voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin et il faudra que ça change. Voilà.
Non, mais je pense que ça traduit aussi, je sais pas si des personnes qui siègent aux instances représentatives de la profession nous écoutent, mais en tout cas, je pense que ça traduit quand même beaucoup des dissensions ou des... Je ne sais pas si dissension c'est le mot, mais en tout cas des différentes fractures au sein de cette profession qui a le même titre, mais qui revêt des réalités tellement différentes que voilà, ça crée ces choses. Que ce soit des modalités d'exercice différentes, des modalités d'accès différentes... Mmh. Avec beaucoup de personnes quand même qui se tirent dans les pattes aussi, enfin, faut le dire,
oui.
En fonction des différentes passerelles.
Oui, alors en plus, c'est vrai que quand on dit passerelle, le sujet est vaste.
Oui, ça va de la personne qui a exercé des mandats politiques qui devient avocat, à la personne qui devient avocat après avoir été 8 ans juriste d'entreprise.
Exactement.
Moi,
je viens de cabinet, donc en fait...
Moi, j'ai fait une passerelle aussi. J'ai fait l'article 99. J'étais avocate au barreau de Madrid. J'ai passé la déontologie et je suis devenue avocate en France. C'est vrai que j'en ai jamais nourri de sentiments d'usurpation ou d'imposture.
Non, mais parce qu'il y avait un titre à Madrid quand même. Donc,
oui, mais cela dit, moi, mon titre à Madrid, je l'ai eu parce qu'il se trouve qu'en Espagne, j'ai fait une double maîtrise en droit français et espagnol. Ouais. Et il se trouve qu'en Espagne, une fois qu'on avait la maîtrise, à mon époque, je suis la dernière année à en avoir profité. Mais on pouvait s'inscrire au barreau sans avoir exercé et sans avoir passé d'examen ou de concours particulier. Donc moi, je suis encore plus une imposture que vous, d'une certaine manière. Mais je me disais surtout que, en fait, c'est pas la différence, elle se fait pas là, quoi. Elle se fait dans la pratique et que c'est surtout là qu'on apprend, c'est pas tellement.
Exactement.
Et donc,
mais d'ailleurs, il faut quand même Il faut quand même. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans les barreaux autres que celui de Paris, puisque par définition, c'est à Paris que j'ai passé mon dossier de passerelle. J'ai pas eu ce sentiment quand j'ai été reçue par le membre du Conseil de l'Ordre qui devait soumettre mon dossier au Conseil pour admission ou pas. Elle m'a pas du tout donné ce sentiment-là d'être une usurpatrice, etc. Parce que effectivement, en fait, je travaillais en cabinet. Que à l'époque, j'avais bien travaillé mon dossier en mettant notamment, c'était l'avantage des opérations de LBO, en nourrissant mon dossier avec toutes les parutions dans les revues professionnelles des opérations sur lesquelles j'étais intervenue, etc. Donc vraiment, elle m'a, même si je pense que je suis arrivée dans une position un peu
Coucou,
je voudrais. Voilà. Au contraire, elle m'a dit, mais je. Enfin, oui, évidemment, c'est une évidence. Donc, il n'y a pas de sujet. Évidemment, je vais expliquer dans ce sens-là au Conseil de l'Ordre qu'il faut que vous deveniez membre de notre profession, etc. C'est plus après. Il y a sans doute eu ce petit repli et ce petit sentiment effectivement d'usurpation en arrivant au barreau de Poitiers. Effectivement, j'ai pas un souvenir, même si c'est sans doute moi qui étais à ce moment-là dans une position de retrait, hein, mais j'ai pas un souvenir.
Mais pourtant, à ce stade-là, est-ce qu'on vous a demandé comment vous étiez devenue avocate? Parce qu'à ce stade-là, tout le monde s'en fiche, non?
Oui.
Sauf vous.
Oui, sauf moi, mais oui, sans doute, mais parce que en fait, j'ai été intégrée au barreau de Poitiers, et donc tous les nouveaux intégrants étaient reçus ensuite à l'issue d'un conseil de l'ordre pour un pot de bienvenue, et en fait, je me suis retrouvée avec essentiellement des jeunes qui sortaient de l'école. Donc là, sans doute, je me suis dit, je me suis mis moi-même hein, en position de retrait et. Ce qui aujourd'hui je l'analyse comme quelque chose de totalement ridicule, hein, mais voilà, à me dire bon bah de toute façon moi ça changera, enfin voilà, ça change rien à ma façon d'exercer, et en même temps c'est essentiellement des gens qui font du contentieux, donc on n'a pas
La même pratique.
Ouais, on n'a pas la même pratique, et puis voilà. J'ai pas cherché à m'investir plus que ça, même si aujourd'hui je me rends compte qu'en fait il y a plein de choses à faire, il y a plein de gens intéressants à découvrir. Je sais que c'est Jean-Charles qui m'a amené à votre micro.
Oui, Jean-Charles Menger qui a été bâtonnier de Poitiers.
Bâtonnier de Poitiers, exactement. Et typiquement, Jean-Charles fait partie de ces gens où il faut rentrer en contact avec des gens comme ça, parce que ça fait du bien, parce que ce sont des gens. Jean-Charles est quelqu'un d'adorable, qui a aussi un certain recul sur la profession, qui est toujours intéressant à entendre.
Il sera entendu dans quelques mois. Mais...
voilà. Donc en fait, aujourd'hui, je me dis que bon, c'est il faut que ça change. Voilà. Donc,
c'est bien,
de
en
plus
fait,
en plus, je me montre et de moins en moins, je me cache, comme disait ma consoeur vendredi soir.
Non, mais c'est bien parce que ça fait un double challenge finalement.
Ouais.
Parce qu'il y a le challenge à ACTI, de structuration de cette activité un peu plus ambitieuse en droit des affaires, dans le développement de développement. Et donc ça, c'est un challenge qui vous a redonné le sourire et qui justifie de votre épanouissement actuel et de votre présence sur le plan d'avocat. Et puis, en parallèle, il y a celui de vraiment investir cette robe et ce titre.
Oui, je pense que c'est lié, en fait, tout ça. Ce chemin-là sur... oui, c'est lié à mon arrivée aussi chez ACTI, à ce qu'on me dit de ma façon de travailler, de pratiquer le métier, etc. Ouais, ça m'a sans doute, là où je disais tout à l'heure, j'ai eu une phase où je me suis un peu éteinte. Ouais, ça, voilà, ça a réveillé à nouveau quelque chose, et la motivation fait que, voilà, ça fait
ça
un petit peu effet
de...
Exactement, voilà. Exactement. Donc non, moi je suis... Voilà. Je m'engage, je ferai mieux. C'est promis.
C'est sûr que vous faites déjà très bien. Mais non, mais je suis très contente. Je ne savais pas que vous aviez fait... Je ne fais pas de recherche sur mes invités avant de...
Oui,
parce que sinon, ça biaise l'échange. Et je suis très contente parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont juristes d'entreprise et qui pensent à la passerelle, qui nous écoutent. Moi, j'ai reçu plusieurs messages de ces personnes qui envisagent, qui se posent des questions sur le fait de devenir avocat après avoir été juriste. Alors, pas forcément juriste en cabinet d'avocat, d'ailleurs. Et donc, je suis contente de pouvoir partager avec eux un profil comme le vôtre, avec ces doutes, ces absences de doutes ces doutes aussi.
Mais en fait, c'est alors c'est le doute, mais je pense que le doute dans la profession, enfin, quel que soit le cursus d'ailleurs, je pense que même si j'avais fait l'école, il y a toujours une phase où on est confronté à des dossiers compliqués, à des confrères, alors la majorité est sympathique, mais pas que. Donc la phase de doute, je pense qu'elle existe. Là, le cursus hors norme, entre guillemets, peut effectivement aggraver un peu les choses, mais il faut se faire confiance, en fait. En fait, il faut se faire confiance et surtout se dire que le client lui-même ne sait rien de ce parcours. Alors là, maintenant, il y en a beaucoup qui vont le savoir.
Mais c'est pas grave. Ça renforcera leur attachement vers vous.
Exactement. Et en tout cas, je l'assume, une fois de plus. Mais il faut se faire... en tout cas, pour les juristes qui nous écouteraient et qui hésiteraient à faire cette passerelle, si l'envie est là, le résultat sera là aussi. Il y a tout un processus quand même avant d'arriver à cette passerelle, notamment un dossier à monter au cours duquel on est forcément amené à réfléchir aux choses, ensuite un rendez-vous avec un membre du conseil de l'ordre auprès duquel on demande à être inscrit. Enfin, tout ça, c'est des choses qui confirment, en fait, ou pas d'ailleurs, le souhait d'aller au bout. Et c'est toujours intéressant, ne serait-ce que par rapport à soi-même, justement. Se dire, tiens, pourquoi, au cours des dernières années, j'ai exercé dans ces conditions? Quel est mon but final? C'est toujours...
Remettre les choses en perspective.
Exactement.
Regarder derrière, regarder devant, tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a des moments charnières qui permettent qui donnent un espace, qui permettent de créer cet espace un peu de points, de réflexion. Qui sont aussi des occasions à saisir, quoi. Est-ce que vous avez une source d'inspiration actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire?
Une source d'inspiration Les chats?
Oui, ça me va. Je suis très inspirée par mes chats, oui.
Voilà. Oh, j'ai 4 chats, parce que je me raisonne. Hein. voilà. Oui, j'en ai 4. 3 enfants, 4 chats. voilà, parce que... en fait, j'aime beaucoup le caractère déterminé du chat. Quand il a... Alors, parler de proie, ça va être un peu... Enfin, c'est pas le terme, hein, mais... c'est pas le terme. Si le chat a bien, hein, quand il a une proie, il ne la lâche pas, il ira au bout, quitte à guetter des heures pour atteindre son objectif. Donc, je me sens assez proche du chat en ça, dans le sens où, voilà, quand je me fixe un objectif... je me donne tous les moyens de l'atteindre, et en même temps j'ai appris comme le chat à être aussi le plus zen possible, à alterner les moments d'hyperactivité, on va dire, et en même temps j'ai aussi appris qu'il fallait lâcher prise, mais vraiment lâcher prise. Être capable de se détendre vraiment. Les chats m'y aident pas mal, ma foi.
C'est
un
drôle.
Chat qui ronronne, c'est assez efficace pour se détendre.
C'est drôle parce que je passe donc le week-end chez mes parents et il y a mon chat chez mes parents qui n'est plus à Paris avec moi, qui est chez mes parents, ce qui est une difficulté dans ma vie.
Ouais, j'imagine.
Bref, et c'est le roi de la détente.
Ouais.
Enfin, j'étais avec des copines là et on le regardait, on se disait, mais franchement, c'est un objectif à atteindre que d'atteindre, d'être capable d'atteindre son niveau de décontraction.
Exactement.
Donc je vois tout à fait de quoi vous parlez. Et quelle est votre dernière joie?
Ma dernière joie. Ben ça, c'est toujours mes enfants, la dernière, de toute façon. Hein. Enfin, voilà, mon petit garçon qui se lève ce matin et qui me dit bonjour, maman. T'es la plus belle.
Oh.
Voilà. Ben, moi, ça me suffit pour bien commencer ma journée. Ça fait partie. Voilà, ma joie principale reste quand même les mots d'amour de mes enfants. Voilà, même si, comme toute maman, hein, c'est pas toujours tout rose. Hein, je n'ai pas des enfants
en plastique.
En plastique. J'ai trois enfants qui ne manquent pas de caractère. Je demande bien de qui ils peuvent tenir. Donc c'est pas, voilà, c'est pas tous les jours facile, mais ouais, leur mot d'amour, oui, c'est toujours ma dernière joie du jour, on va dire, c'est les mots de mon petit dernier de ce matin.
Et bah alors, c'est une question qui est d'autant plus structurante après notre échange aujourd'hui, mais que portez-vous sous votre robe ?
C'est-à-dire rien, pourquoi ? Des provocateurs. Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Des bottes.
Merci beaucoup, Marie-Laure.
De rien.